Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la rétention et nous arrivons à l'étude numéro 28. Et le thème sera le jugement universel. Chers amis, j'ai montré les résultats pratiques de la rédemption chrétienne pendant le temps dans lequel l'Église s'est trouvée sous les moyens de grâce. Nous avons vu quelles grandes révolutions ont eu lieu et quelles autres doivent arriver encore pendant ce temps. Nous avons vu comment les dispensations providentielles se sont succédées pour assurer ce succès de l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, consistant à faire grâce à tout son peuple. Nous en sommes venus à présent à la fin des dispensations providentielles. Tout est maintenant terminé à cet égard, car tout est mûr présentement pour la venue de Christ en jugement. Le succès de l'œuvre de la rédemption est de deux genres. Il consiste en grâce et en gloire. Le premier genre de succès s'obtient pendant que l'Église est sous les moyens de grâce. Le second se réalisera surtout au jour du jugement. Après avoir montré comment le premier genre de succès a été obtenu, j'en viens à présent au second, celui qui sera réalisé par la glorification de l'Église au jour du jugement. Et ici, je remarquerai deux ou trois choses. En général, concernant ce genre de succès de l'œuvre de la rédemption. Premièrement, on peut voir combien grand est le succès de l'œuvre de la rédemption chrétienne par le fait qu'il consiste dans le salut du peuple de Dieu. Mais cette glorification est appelée surtout leur salut. Oui, il apparaîtra une seconde fois sans péché et à tous ceux qui l'attendent à salut, selon Hébreux chapitre 9 verset 28. Elle est appelée rédemption parce que c'est surtout en cela que consiste la rédemption de l'Église, par lequel vous avez été scellés, est-il dit, pour le jour de la rédemption, selon Éphésiens chapitre 4, verset 30, et notez Saint-Luc chapitre 21, verset 28, et encore Éphésiens chapitre 1, verset 14. La rédemption de la possession qu'il a acquise. Donc tout ce qui précède, pendant que l'Église est sous les moyens de grâce, est seulement destiné à préparer le succès qui doit être atteint dans sa glorification. Les moyens de grâce et la grâce de Dieu elle-même sont accordés aux élus afin de les préparer pour la gloire. Christ apparaîtra dans la gloire de son Père avec tous ses saints anges venant sur les nuées du ciel. C'est lorsque le monde s'égayera dans sa méchanceté qu'il assiégera la sainte cité et sera sur le point de la détruire, que le glorieux Rédempteur fera enfin son apparition. Celui par qui cette œuvre de rédemption a été poursuivie pendant si longtemps fera donc son apparition à la vue du monde. La splendeur de sa gloire éclatera. Le monde entier s'en apercevra immédiatement. On lèvera les yeux et on contemplera cet admirable spectacle. Donc tout œil le verra, nous est-il dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 7. Christ Jésus apparaîtra dans sa nature humaine, dans ce même corps qui sera glorifié, qui est né dans une étable et qui fut déposé dans une crèche et qui plus tard fut cloué à la croix. C'est vrai. Les hommes élèveront donc leurs yeux et ils le verront venir dans une majesté et dans une gloire dont on ne peut se faire une idée. L'éclat du soleil par un ciel sans nuages n'est que ténèbres en comparaison, car tous les anges glorieux et les archanges l'accompagneront. Des milliers et des millions le serviront, et des 10 milliers l'entoureront. Oui, combien il différera de sa première venue, alors qu'il se présentait comme une racine dans une terre altérée, en homme pauvre, méprisé et affligé. Comme à présent, son apparition au milieu de ses anges glorieux, de ses principautés et de ses puissances célestes qui le servent, cela est donc différent de ce qu'elle était alors que entouré d'un cercle de soldats, recouvert d'une robe écarlate, rappelez-vous, et couronné d'épines affreux, il était souffleté, battu, qu'on lui crachait au visage et qu'il était crucifié entre deux brigands en présence de ses ennemis triomphants. Ce sera donc là un spectacle très inattendu pour le monde méchant. Cela surprendra les hommes comme un cri à minuit. Ils seront surpris au milieu de leur méchanceté et ils seront très alarmés. Cet événement interrompra leur débauche, leur repas et leur fête. Cette venue mettra une prompte fin au projet de l'armée qui environnera alors le camp des saints et leur fera tomber les armes des mains. Le monde alors, plein d'hommes, pour la plupart méchants, retentira des cris de douleur et de détresse, car toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui, et on se cachera, oui, on se cachera, mais où se cachera-t-on? Comme la venue de cette redoutable majesté effrayera les hommes, on peut le comprendre, au milieu de leur méchanceté. On verra alors qui il est, on verra quel personnage. Et celui qui a été l'objet des moqueries et des railleries et dont on s'est efforcé de détruire l'Église. Cette vue changera leur rire et leur chant alors qu'ils seront surpris donnant et prenant en mariage et leurs railleries se transformeront en d'affreux cris de détresse. Leur joie charnels et leur air hautain les abandonneront. Ils cesseront de mépriser le peuple de Dieu. Ils seront saisis de surprise et d'effroi, et ils trembleront et grinceront des dents. Mais pour les saints, ce sera une venue très joyeuse et très glorieuse, car elle les délivrera immédiatement de toute crainte de leurs ennemis qui les entourent, qui sont prêts à les détruire. Ils seront délivrés dans leur extrémité. Le grand capitaine de leur salut apparaîtra quand tout autre secours aura disparu. Alors, ils lèveront la tête et leur délivrance s'approchera. Christ Jésus apparaîtra revêtu d'une majesté infinie, et ils découvriront en même temps en lui un amour infini. Et cette vue de leur Rédempteur venant sur les nuées du ciel remplira leur cœur de joie. L'expression de leur visage sera aussi changée, mais d'une manière tout opposée au changement qu'éprouveront les méchants. Ils passeront de la tristesse au triomphe et une joie excessive. Et alors, l'œuvre de la rédemption sera terminée dans un autre sens, car l'Église entière sera complètement et pour toujours délivrée de toute persécution et de toute atteinte de la part des méchants et des démons. Deuxièmement, la dernière trompette sonnera et les morts ressusciteront et les vivants seront transformés. Dieu envoya, dans un sens mystique, tous ses anges avec un grand son de trompette pour rassembler ses élus des quatre points de la terre avant la destruction de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il envoya les apôtres et d'autres personnes pour prêcher l'évangile par tout le monde. De même aussi, dans un sens mystique, la grande trompette retentit au commencement des beaux jours de l'Église, mais alors la grande trompette, dont le son ébranlera la terre, ça retentira dans un sens plus littéral, et il y aura un grand signal donné par un grand son appelé la voix de l'archange. Car le Seigneur lui-même nous est-il dit, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Au son de la grande trompette, les morts, oui, écoutez bien, les morts ressusciteront partout. Le nombre des morts est à présent très grand. Combien de personnes la mort n'a-t-elle pas moissonné depuis la création du monde? Mais alors, en ce temps-là, leur nombre sera encore beaucoup plus grand. Le monde aura existé beaucoup plus longtemps, et vers ces derniers jours, il sera sans doute plus peuplé que jamais. Tous, oui, absolument tous, ressusciteront alors. Les sépulcres s'ouvriront dans toutes les parties du monde, et la mer rendra les morts sans nombre qu'elle renferme. Et alors, tous ceux qui auront habité la terre apparaîtront ensemble. Tous ceux qui auront fait partie de l'Église de Dieu dans tous les âges, Adam et Ève, les premiers parents du genre humain, Abel, Seth et Methuselah, on dit aussi dans d'autres versions Methusalem, et c'était le plus âgé de tous les hommes de la terre, et tous les saints qui furent leurs contemporains, tels que Noé et Abraham, Isaac et Jacob, les prophètes d'Israël, les saints apôtres de Jésus-Christ, les saints de tous les temps et tous les saints martyrs qui ont été les victimes de cruelles persécutions. Là donc se trouveront tous ceux qui ont appartenu à l'Église alors qu'elle était dans le désert aux jours ténébreux de l'Antéchrist, et tous ceux qui auront souffert de ces cruelles persécutions avec tous les saints qui ont existé et qui existeront d'ici à la fin du monde. Alors apparaîtront de nouveau tous les ennemis de l'Église dans les divers siècles, tels que les païens, les juifs, les mahométans et les soutiens de l'Église de Rome, tels que les pécheurs de tout genre, les froids hypocrites, les sensualistes profanes, les hérétiques, les incrédules et tous les cruels persécuteurs, donc tous ceux qui sont morts ou qui mourront dans leur péché seront rassemblés. En même temps que les morts ressusciteront, eh bien les vivants seront changés, car le corps des méchants qui vivront alors sera changé pour le préparer au tourment éternel, et le corps des saints qui vivront alors sera changé pour qu'ils deviennent semblables au corps glorieux de Jésus-Christ. Le corps des saints sera tellement changé qu'ils ne pourront plus ni souffrir, ni être attristés, ni éprouver aucun malaise. La pesanteur et la difformité de leur corps disparaîtra totalement, et ils seront revêtus de force, de beauté, d'activité et d'une gloire incorruptible qui ne passera jamais. Alors aussi, l'œuvre de la rédemption sera terminée. Elle sera terminée sous un autre rapport. Tout le peuple de Dieu sera alors effectivement racheté pour ce qui est de l'âme et du corps. Avant cela, l'œuvre de la rédemption pour ce qui est de ses résultats pratiques est encore incomplète, car l'âme seule des rachetés avait été effectivement sauvée et glorifiée, sauf quelques rares exceptions. Mais alors, le corps de chacun des saints sera également sauvé et glorifié. Ils seront alors glorifiés dans l'homme entier, c'est-à-dire âme et corps. Et j'ajoute, et l'esprit. Troisièmement, les saints seront alors enlevés pour rencontrer le Seigneur en l'air. Et les méchants et les démons auront tous à comparaître devant le tribunal de Dieu. Quand les saints seront ressuscités. L'Église entière, comprenant le peuple de Dieu dans les divers âges, sera réunie sur la terre, sauf quelques-uns dont le corps aura déjà été glorifié. Et alors, ils monteront tous à la rencontre de Christ qui établira son trône dans l'air afin d'être vu, vu par la grande multitude réunie autour de lui. Et c'est alors que les saints iront à la rencontre de leur Sauveur. Les apôtres, ils nous disent que lorsque ceux qui seront morts en Christ auront été ressuscités et que les vivants auront été changés, ceux qui demeureront de reste seront enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur en l'air, et nous, nous serons toujours avec le Seigneur. Chers amis, quelle vue magnifique ce sera, alors que plusieurs millions de saints s'élèveront ainsi en l'air de toutes les parties du monde. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. L'œuvre de la rédemption sera aussi terminée. Elle sera terminée alors sous un autre rapport. L'Église entière sera complètement délivrée et pour toujours de ce monde mauvais. Elle prendra un congé éternel de cette terre sur laquelle elle a été étrangère et qui la plupart du temps a été un théâtre de troubles et de tristesse, où le diable a régné comme un dieu et les a beaucoup affligés. Cette terre sur laquelle se sont passées tant de scènes de méchanceté et d'abomination, où Jésus-Christ, leur Seigneur, a été crucifié et où les chrétiens ont été si haïs, si insulté et si persécuté, ils la quitteront pour ne jamais plus y mettre les pieds, et il sera établi une séparation éternelle entre eux et les méchants. Jusqu'alors, ils étaient restés confondus, et dans plusieurs cas, il était impossible de bien déterminer leur caractère. Mais alors, tout sera manifesté. Les saints et les pécheurs se montreront dans leur vrai caractère et sous leur vraie forme. Alors, on verra toute l'Église venant de l'Orient et de l'Occident, venant du Nord et du Sud, en montant à la droite de Christ. Oh, quelle nuée il y aura là! Oui, tous ceux qui ont été de l'Église de Dieu, tous ceux qui ont existé avant l'apparition de Jésus-Christ. Ensuite, il y aura la multitude des saints du temps des apôtres. Alors, que pendant plusieurs générations, la terre sera si pleine de fidèles, ainsi que ceux qui vivront à la venue de Christ, tous ceux-là s'élèveront dans les nuées pour être à sa droite. Alors aussi l'œuvre de la rédemption sera terminée sous un autre rapport. L'Église sera réunie pour ne plus former qu'un troupeau. Ils appartenaient tous, avant cela, à une même société, mais ils étaient très séparés les uns des autres. Quelques-uns étaient dans les cieux, d'autres sur la terre, et ceux qui se trouvaient sur la terre étaient séparés par des vastes océans et de vastes continents. Mais alors, là, ils seront tous réunis pour ne plus jamais se séparer. Non seulement tous les membres de l'Église seront alors rassemblés, mais ils seront tous réunis sous leur chef. Ils seront en sa présence immédiate pour n'être plus jamais séparés de lui. En même temps, tous les méchants et les démons apparaîtront devant le tribunal de Jésus-Christ. Ils seront réunis à la gauche de Christ, et à ce qu'il semble, ils resteront sur la terre et ne seront pas enlevés en l'air comme les fidèles. Le diable, cet ancien serpent, sera alors retiré de l'enfer. Celui qui entraîna l'humanité dans sa chute et dans sa misère, qui s'est opposé à sa rédemption et qui s'est montré un ennemi si acharné du Rédempteur, il n'aura jamais plus rien à faire avec l'Église de Dieu et il ne lui sera plus permis de jamais faire souffrir la moindre chose à chacun de ses membres. Alors, il aura à comparaître devant ce même Jésus, afin d'être par lui jugé, condamné et détruit pour toujours. Si Satan, le prince de l'enfer, tremble à la pensée de ces choses 1000 ans à l'avance, combien plus ne tremblera-t-il pas, tout orgueilleux et endurci qu'il est, quand il devra comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Il aura aussi alors à comparaître devant le tribunal des saints qu'il aura haï, affligé et tourmenté, car les saints le jugeront avec Jésus-Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges ? Il sera alors en quelque sorte foulé aux pieds par l'Église, selon Romains chapitre 16, verset 20. Satan et ses démons dans l'enfer qui se sont opposés à Jésus-Christ et à son royaume, ils auront à paraître surpris et saisis d'horreur devant Jésus-Christ et devant son Église qui viendront pour les condamner. Alors aussi, tous les autres ennemis de Christ auront à comparaître devant lui. Ils y viendront aussi, ces scribes et ces pharisiens orgueilleux, tous qui ont eu tant de haine pour Jésus-Christ dans son état d'humiliation et qui l'ont poursuivi jusqu'à la mort. Ceux devant le tribunal desquels Christ a paru un jour comme un malfaiteur et ceux qui l'ont frappé, qui sont moqués de lui, lui ont craché au visage, ils le verront dans toute sa gloire, ainsi que cela est annoncé dans Saint Matthieu, chapitre 26, versets 64 et 65. Précédemment, Jésus-Christ avait apparu devant leur siège juridique, et ce sera alors leur tour de comparaître devant le sien. Ils seront saisis d'une horreur et d'une surprise inexprimable. Ils seront égarés, tremblants. Ils grinceront des dents et leurs genoux s'entrechoqueront. Alors aussi seront réunis tous les cruels ennemis et les persécuteurs de l'Église. Tous apparaîtront ensemble devant le tribunal de Christ. Eux et les saints qu'ils ont persécutés dans tous les siècles viendront et seront confrontés devant le grand juge. Alors aussi les saints, placés sur leur trône de gloire, jugeront ces rois, ces présidents injustes et ces gouverneurs qui les auront autrefois jugés, condamnés et mis à mort. Alors aussi ces persécuteurs verront la gloire, ils les verront la gloire de ceux qu'ils auront méprisés et cruellement persécutés. Voilà donc comment l'état de choses sera admirablement changé, et alors tout rentrera dans l'ordre. Quatrièmement, la justice de l'Église sera manifestée et toute la méchanceté de ses ennemis sera mise au jour. Ces saints qui auront été l'objet de la haine, des mépris, des reproches du monde, qui auront été maltraités et condamnés sans cause par leurs persécuteurs, ils seront alors complètement vengés. Ils apparaîtront revêtus de la justice de Jésus. Dans ce temps, il sera clairement manifesté devant le monde que la justice de Christ leur appartient et ils brilleront de son éclat. Alors, leur sainteté inhérente sera manifestée et toutes leurs bonnes œuvres viendront à la lumière. Les bonnes choses qu'ils auront faites en secret seront alors manifestées publiquement. Les saints de Dieu qui auront été traités comme la boue et la balayure du monde, qu'on n'aura pas jugé digne de vivre, qu'on aura supposé pire que les bêtes, seront manifestés comme les excellents de la terre. Dieu fera alors éclater leur justice comme le jour et leur jugement comme le midi. Et on verra alors quels étaient en réalité les méchants, indignes de vivre, alors que toute la méchanceté des ennemis du Christ et de son Église, leur orgueil, leur malice, leur cruauté et leur haine de la véritable croix, de la véritable foi, seront exposées dans tout ce qu'elles ont d'horrible et présentées sous leur véritable couleur. Alors les justes qui n'auront pas pu se faire entendre devant les juges iniques, se feront entendre devant le grand juge. Ils plaideront là leur cause. Ils s'élèveront en jugement contre les persécuteurs et ils déclareront comment ils auront été traités par eux. Cinquièmement, la sentence sera prononcée sur les justes et sur les injustes. Christ, le juste juge, fera à ceux qui seront à sa droite cette déclaration. Écoutez bien. Il leur dira : Venez, les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Cette sentence sera prononcée avec un amour infini et elle remplira chaque cœur de joie. C'est ainsi que Jésus-Christ prononcera une sentence de justification en faveur de millions d'hommes, qui auront été précédemment, donc avant, condamnés par leurs persécuteurs. Et c'est ainsi qu'il honorera tous ceux qui auront été précédemment méprisés. Il les reconnaîtra pour siens et il leur placera en présence du monde une couronne de gloire sur la tête. Alléluia. Et alors, ils brilleront comme le soleil avec Christ dans la gloire et dans la joie en présence de tous leurs ennemis. Alors sera prononcée la sentence de condamnation contre les méchants. Il sera dit, allez maudits, allez au feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Ainsi seront condamnés les ennemis de l'Église et les saints martyrs qu'ils auront fait souffrir. Ils participeront à la prononciation de ce jugement. Quand les paroles de cette sentence seront prononcées, elles frapperont d'horreur et de surprise le cœur de tous ceux qui seront à gauche. Quel tremblement, quel grincement de dents, quelle contorsion ne verra-t-on pas dans cette grande multitude? Pardon. Sixièmement, après cela, Christ et tous ses saints, et tous les saints anges et ses serviteurs laisseront ce monde inférieur et s'élèveront vers le plus haut des cieux. L'ascension de Jésus-Christ sera tout aussi glorieuse que sa descente et même plus à divers égards, car alors il s'élèvera avec toute l'Église des élus dont l'âme et le corps, vous avez compris, auront été glorifiés. La première ascension de Christ après sa résurrection fut très glorieuse, mais cette seconde ascension avec son corps mystique, toute son Église, sera bien plus glorieuse. Toute l'Église des rachetés, s'élèvera avec lui en triomphe et joyeuse. Et tous ses ennemis et ses persécuteurs qui seront laissés derrière pour être consumés seront témoins de ce spectacle et entendront les chants des fidèles. Septièmement, quand ils auront quitté ce monde, eh bien ce monde sera consumé par le feu. Il deviendra une grande fournaise dans laquelle tous les ennemis de Jésus-Christ et de son Église seront tourmentés pour toujours. Ce n'est pas moi qui le dis. Il est dit, mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Comme les méchants seront saisis d'horreur lorsque le feu commencera à s'emparer d'eux et qu'ils ne trouveront pas moyen d'échapper, quels cris se feront entendre parmi ces nombreux millions quand ils commenceront à entrer dans cette grande fournaise, quand le monde entier sera un grand brasier en feu. D'autant plus que l'apôtre Pierre, il dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 10 et 12, il dit « Or le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 10 et 12. Et cette chaleur sera si terrible, horrible, qu'elle embrasera la terre jusqu'à son centre. C'est là que semble vouloir dire Deutéronome, chapitre 32, verset 22, semble vouloir dire par le feu, car le feu s'est allumé en ma colère, est-il dit, et a brûlé jusqu'au fond des plus bas lieux, et il a dévoré la terre et son fruit, et en a embrasé les fondements même des montagnes. Alors aussi le diable, cet ancien serpent, recevra toute la punition qu'il a méritée. Ce qu'il a tellement redouté viendra sur lui. Ce monde qui aura été précédemment, on peut dire, qui aura été le siège de son règne, dans lequel il sera établi comme Dieu, deviendra ainsi le lieu de son châtiment et de ses tourments éternels. Ainsi sera atteint un des buts de l'œuvre de la rédemption, qui est de mettre les ennemis de Christ sous ses pieds. Ses ennemis seront alors le marchepied de ses pieds, dans le sens le plus étendu du mot. Alors cette parole qui dit « Il te brisera la tête » Genèse chapitre 3 verset 15 recevra donc son entier accomplissement. Et huitièmement, en même temps, l'Église entière entrera avec Christ son Seigneur au plus haut des cieux, pour jouir d'une gloire et d'un bonheur éternel. Tandis que le monde inférieur, ce monde qui auront abandonné, deviendra la proie du feu de la vengeance de Dieu, et qu'il sera embrasé, et que les méchants seront jetés dans le feu éternel. Alors l'Église entière, avec son chef glorieux et tous les anges qui l'environneront, feront son entrée dans le paradis de Dieu, dans le palais du grand Jéhovah, le Père céleste de tous les fidèles. Les portes s'ouvriront larges pour les recevoir, et Christ Jésus les introduira dans ses demeures. Il les présentera en triomphe à son Père en lui disant « me voici avec les enfants que tu m'as donnés », ce qui revient à dire « me voici avec chacun de ceux que tu as placés sous mes soins de toute éternité pour les racheter et pour les glorifier. Tous ceux dont la rédemption m'a coûté tant de souffrances et en vue desquels j'ai accompli tant de grandes révolutions, les voici donc ici présents, parfaitement rachetés, et pour leur corps ainsi que pour leurs âmes. Je les ai arrachés à toutes les fâcheuses conséquences de la chute. Oui, je les ai délivrés de tous leurs ennemis. J'ai formé avec tous une belle société. Je les ai tous unis en moi. Je les ai ouvertement justifiés devant les anges et les hommes. Je les ai retirés de ce monde maudit dans lequel ils ont tellement souffert. Je les ai conduits devant ton trône. J'ai fait toutes les choses que tu m'as commandé de faire. Je les ai complètement lavés dans mon sang. Donc les voici complètement saints et parfaits. Et le Père alors, il les accueillera, il les reconnaîtra pour être ses enfants, les admettra à l'héritage éternel de sa gloire et de sa maison. Et à cette occasion-là, il leur donnera de plus glorieuses marques de son amour que par le passé, et les admettra à jouir de lui d'une manière encore plus entière et parfaite que précédemment. Et c'est alors que auront véritablement lieu les noces de l'agneau, le commencement des jours glorieux de l'Église sur la terre après la chute de l'Antéchrist et appelé les noces de l'agneau. Mais il est aussi parlé d'autres noces de l'agneau à la fin du jour du jugement. Le disciple bien-aimé, après avoir annoncé ce qui doit arriver dans ce jour solennel, a déclaré dans Apocalypse chapitre 20 verset 21 qu'il a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui a été préparée comme une épouse ornée pour son époux. Christ Jésus introduira dans la maison de son Père dans les cieux sans tache et sans ride toute son Église qu'il a aimé et pour laquelle il s'est livré lui-même. L'époux et l'épouse feront alors leur entrée dans les cieux avec leur robe de noces et ils accompagneront des anges. Et là, en présence du Père, ils entreront dans les fêtes et les joies de leur mariage. Alors commenceront pour eux les noces éternelles. Ce sera le grand jour de bonheur pour Jésus-Christ, dans lequel il se réjouira et tous les saints avec lui. Christ se réjouira en son épouse et l'épouse se réjouira en son époux dans un bonheur complet et éternel. Notez Apocalypse chapitre 21 verset 22. Et alors, toute l'œuvre de la rédemption sera achevée. Je répète. Et alors, toute l'œuvre de la rédemption sera achevée. Chers amis, dans le cours de cette étude, nous avons suivi l'Église de Dieu à travers les grands changements par lesquels elle a passé, les orages et les tempêtes qui l'ont assaillie pendant tellement de siècles. Nous l'avons vu entrant dans le port et abordant au haut des cieux dans une gloire complète et éternelle. Oui, nous avons traversé les divers âges du monde, guidés par la sainte parole de Dieu et par la providence. Nous avons vu tous les ennemis de l'Église condamnés, condamnés à un malheur éternel. Et nous avons vu l'Église parfaitement rachetée, introduite en la présence de son Père, dans les cieux pour y jouir d'une gloire et d'un bonheur qu'on ne peut vraiment ni concevoir ni exprimer. Et c'est là que nous la laissons, jouissons de sa gloire durant les siècles sans fin de l'éternité. Chers amis, alors, tous les ennemis de Christ seront entièrement mis sous ses pieds et il triomphera complètement du péché de Satan et de tous ses instruments. Il triomphera de la mort et de l'enfer. C'est alors que seront parfaitement accomplies toutes les promesses touchant l'alliance de rédemption qui a été faite à Christ par le Père dès avant la fondation du monde. Christ aura alors parfaitement obtenu la grande joie qu'il s'était proposée et en vue de laquelle il a pris sur lui les grandes souffrances qu'il a éprouvées dans son état d'humiliation. Alors seront réalisées toutes les espérances et l'attente des saints. Jusque-là, l'Église aura été sans un état préparatoire et progressif, mais en ce temps-là, elle sera parvenue à un parfait état de gloire. Toute la gloire de l'Église sur la terre n'est que une ombre de sa gloire parfaite qui sera dans les cieux. Alors aussi, Jésus-Christ, le Rédempteur parfait, sera complètement glorifié. Dieu le Père sera glorifié en lui et le Saint-Esprit sera aussi glorifié dans l'achèvement de son œuvre dans le cœur de tous les fidèles. Alors seront terminés ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Vous l'avez compris, il est parlé des nouveaux cieux et de cette nouvelle terre. Toutes choses seront faites nouvelles après que le premier ciel et la première terre auront été totalement détruites. Puis j'ai vu un nouveau ciel, est-il dit, et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Notez, dit Offenbarung, Apocalypse chapitre 21, verset 1. Le grand Rédempteur aura alors terminé tout ce qui concerne cette grande œuvre de la rédemption qu'il a commencée bientôt après la chute de l'homme et qui peut se faire une idée. Oui, qui peut se faire une idée? Des chants de triomphe qui retentiront dans les cieux à cette grande occasion-là et qui seront plus grands encore que à la chute de l'Antéchrist. Le disciple bien-aimé, Saint Jean, selon Apocalypse chapitre 19, semble manquer d'expression quand il a décrit ses louanges, car il dit dans le verset 6 de Apocalypse chapitre 19, il dit que c'était comme le bruit des grandes eaux et comme l'éclat de grands tonnerres, disant « Alléluia !» car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a pris possession de son royaume. Plus inexprimables seront encore les louanges qu'on chantera dans le ciel après la consommation finale de toutes choses. Les louanges de cette grande multitude retentiront comme le bruit du tonnerre. Maintenant que tout est terminé, Jésus-Christ remet le royaume à Dieu, son Père. Et après viendra la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, et quand il aura aboli tout empire et toute puissance et toute force, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Ce n'est pas que Jésus-Christ doive cesser de régner après cela, car il est dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et il n'y aura point de fin. Il n'y aura point de fin, est-il dit, à son règne. Saint Luc chapitre 1 verset 33, et notez Daniel chapitre 7 verset 14. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point dissipé. Mais cela signifie que Jésus-Christ remettra le royaume ou l'administration du monde qu'il a en qualité de délégué et de vice-roi, il le remettra au Père, et que le Père lui a confié pour l'exercer en vue de la grande œuvre de la rédemption. Il semble donc, et nous terminons, que le Père, Yahvé l'Éternel, lui a donné cette délégation en vue de l'œuvre de la rédemption. Et par conséquent, quand ce but est atteint, la délégation cesse et Jésus-Christ remet au Père le pouvoir qu'il a reçu de lui. Je répète pour terminer, et Jésus-Christ remet au Père le pouvoir qu'il a reçu de lui. Chers amis, nous terminerons peut-être demain cette série, mais avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle et aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Surmontez dans la joie de Jésus-Christ vos craintes et vos chimères. Ainsi guériront toutes vos plaies et vos blessures. Rejetez tout sentiment d'impuissance ou d'insuffisance. Oubliez vos heures pénibles. Oui, tout ce qui vous heurte péniblement et vos conflits, et mettez en Jésus-Christ votre confiance. Aimez-le et ayez recours à lui. Votre vie de disciple ressemble à une course d'obstacles. Courez de façon à remporter le prix. Et le prix, ce n'est pas seulement ce que votre cœur souhaite naturellement, c'est surtout Jésus-Christ qui est la joie et le ciel de votre âme. Que penseriez-vous d'un coureur qui se coucherait par terre, découragé au premier obstacle? Alors, franchissez l'obstacle. En avant donc, et sautez. Et le Seigneur est votre entraîneur en même temps que votre but. Et maintenant, prions ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, notre vie s'écoule fugitive et rapide. Le jour naît et finit. Les mois et les années recommencent et s'achèvent. Il semble que nous soyons emportés comme par un torrent dont les flots se précipitent avec d'autant plus de vitesse qu'ils approchent de l'abîme où ils seront engloutis. Qu'est-ce donc que notre vie, Dieu Tout-Puissant? Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Aujourd'hui, nous sommes pleins de santé, de force, mais demain, la tombe recevra notre enveloppe terrestre. Elle nous serons reçus, on peut dire, glacés. Aujourd'hui, nous rêvons qu'espérance de projets de bonheur. Mais demain, Nous verrons disparaître ces songes enivrants, et l'avenir éternel et redoutable s'étendra devant nous. Insensés donc tous ceux qui vivent pour cette terre seulement, ceux qui ne pensent pas chaque jour et sans cesse à la fin inévitable et prochaine de cette vie. Oui, ceux qui ne savent pas rattacher leur existence terrestre à l'éternité. Insensés donc tous ceux qui s'efforcent d'oublier que d'un instant à l'autre, leur âme peut leur être redemandée. Ô Seigneur, que nous ne soyons pas au nombre de ces insensés, mais que nous sachions nous préparer à tout quitter quand tu nous appelleras et apparaître en ta présence. Ô Sauveur de nos âmes, Jésus-Christ, divin Rédempteur, aie pitié de nous et reçois-nous dans ta miséricorde. Nous nous confions en toi, car nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Seigneur notre Dieu, ne rejette point notre prière et que ta grâce nous fasse vivre éternellement pour te louer et pour te bénir. Amen. Et maintenant, je voudrais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé, 1942. C'est évidemment pas aussi parfait qu'un CD.
Dieu m'a parlé, ça c'est typique du gospel. On s'adresse directement à Dieu, on fait référence à la vie quotidienne, ce qui n'est absolument pas le cas avec les anciens négos spirituels, où on faisait référence uniquement à l'Ancien Testament, à la Bible. Là dans le gospel, on parle du monde contemporain. C'est l'évolution qui a suivi et qui continue du reste aujourd'hui. Ça, c'était en 1951, c'est la fin des années 40, le début des années 50, avec l'explosion de ces très grandes chanteuses qu'on vient de l'entendre, la Sister Rosetta Tharpe, Mary Knight, et Mahalia Jackson. Mahalia Jackson, absolument incontournable, qui est devenue du reste la figure emblématique des Negro Spirituals et Gospel Songs. Mahalia, qui était née à la Nouvelle-Orléans, a prédit toute la musique de cette cité où elle était petite fille, mais elle est montée très jeune à Chicago, et c'est là qu'elle a lancé sa fabuleuse carrière en chantant d'abord à l'église de son quartier, dans le chœur, comme toutes les autres. Et puis petit à petit, on a découvert cette voix exceptionnelle. Une voix qu'on reconnaît immédiatement. Un peu bonne, ça jaillit, c'est puissant, c'est magnifique. On écoute Mahalia Jackson. Just just as I